toi. Tu cherches des problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs RIS de Radio Canu, Radio Rebelle. Il est 21h01, donc c'est le direct qui reprend la parole sur Radio Canu avec l'émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Avec au menu de ce soir une nouvelle conférence. Cette fois, il s'agira d'une conférence de Laurence Thin. Que j'avais annoncé il y a 2 semaines, qui a eu lieu à la Griffe, suivi d'un débat, et qui a été titré « La chaîne mondiale du travail reproductif ». Donc Laurence Thin est sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, et chercheur au centre Max Weber, et aussi chercheur associé à l'INED, donc les démographes. C'est une rencontre qui a eu lieu le 17 octobre à 15h, donc à la librairie La Griffe, dans le 7e arrondissement de Lyon. Je vous lis le petit speech qui accompagnait l'annonce de cette rencontre au débat. La reproduction humaine n'est pas seulement une branche de la biomédecine, c'est aussi un théâtre social où se confrontent et s'affrontent différents acteurs. La société globale, avec ses circuits transnationaux et ses inégalités géopolitiques, est le cadre des transactions et des assemblages corporels. Le genre, avec ses contraintes hétéronormées, est l'arène par excellence où se joue la fabrication de l'enfant. L'institution biomédicale, avec ses tensions entre professionnels et profanes, a désormais pris le relais de l'Église comme instance normative. Enfin, la hiérarchie sociale demeure un facteur déterminant, discriminant de l'usage de ces pratiques. C'est à partir des nombreux exemples issus du numéro spécial des Cahiers du Genre, un numéro qui avait pour titre « Biotechnologie et travail reproductif », donc qui avait été co-dirigé par Laurent Stein, mais aussi à partir d'exemples puisés de son livre « Le corps reproducteur » que Laurent Stein explorera les quatre scènes de ce théâtre avec la notion de chaîne mondiale du travail reproductif. Donc bref, il sera question principalement donc de ce qu'elle appelle le travail reproductif, c'est-à-dire de ce qui contraint sociologiquement, on va dire, le fait de se reproduire et de faire des enfants. Voilà, donc je diffuserai que l'intervention de Laurent Stein, qui était suivie d'un débat, ce qui est un peu dommage, parce que c'est vrai que ce que je fais d'ailleurs la plupart du temps, hein, si vous suivez l'émission, je coupe les débats qui suivent les interventions, et c'est vrai que des moments dans les débats, ça peut amener l'auteur à repréciser des choses intéressantes aussi, mais c'est pour une question de temps, hein, parce que souvent les conférences déjà sont un peu longues, je suis amené à les couper souvent, là c'est pas le cas, je coupe pas la conférence en elle-même. Voilà, donc c'est donc il y aura que l'intervention de Laurent Stein, pas le débat qui s'ensuit. Je m'en excuse. Et ben je vous laisse tout de suite avec Laurent Stein, donc pour la chaîne mondiale du travail reproductif.
Beaucoup de l'invitation. Effectivement, le sujet, le travail reproductif, les biotechnologies, est un sujet hautement polémique. Donc, je vais vous présenter effectivement une introduction au contenu de ces deux ouvrages, qui sont donc d'une part un ouvrage personnel et d'autre part un numéro de revue qu'on a coordonné avec deux collègues, Virginie Rosé et Ilana Loui, et qui est plus centré sur l'un des aspects. Donc, je dirais, ces deux ouvrages sont centrés sur l'idée que la fabrication d'enfants est un travail. Donc, je vais revenir là-dessus au départ. Et ensuite, dans mon ouvrage, je regarde quatre scènes. C'est-à-dire que je considère que le travail reproductif est un théâtre social avec quatre scènes, et l'une de ces quatre scènes est particulièrement développée dans ce numéro spécial. Donc, je vais revenir là-dessus. Ça, c'était juste pour vous donner une petite idée de la chose. Alors, je dirais, je commence par le début, enfin le début. Faire un enfant, c'est évidemment une émotion, c'est évidemment un projet avec une, deux ou plusieurs personnes, et c'est très chargé à tout point de vue pour différentes raisons. Et donc il est souvent difficile d'accepter au niveau de la société que c'est une scène sociale, c'est-à-dire c'est pas une spontanéité, mais ceci étant la spontanéité, quoi de plus social que la spontanéité. Donc l'idée, c'est que cette fabrication d'enfants est un théâtre social. Un théâtre qu'on a voulu centrer sur la question du travail. Alors, le travail reproductif, au niveau des démographes, c'est effectivement ça, c'est la fabrication d'enfants. Donc, c'est au sens le plus restreint. Au sens le plus large, le travail reproductif, c'est le travail domestique, c'est s'occuper des enfants, etc., etc. Mais dans ces deux ouvrages, on a pris le travail reproductif dans son sens restreint, c'est-à-dire dans le sens fabriquer un enfant. Alors, cette idée est tout à fait controversée, parce que pour beaucoup, faire un enfant, c'est pas du travail. Moi, je suis toujours étonnée quand on dit ça, parce que on en voit bien les conséquences au niveau de son corps, au niveau du temps qu'on y passe. Alors, c'est comme si faire un enfant, c'était seulement de l'émotion. Enfin, quand on fait un travail, quel qu'il soit, il y a aussi des émotions. Il y a toujours des émotions, quelles qu'elles soient. Donc, disons que c'est sous cet angle du travail. Alors, évidemment, la controverse, c'est oui, mais le travail productif, faire des clous, faire, etc., c'est bien autre chose que le travail reproductif. Et nous avons été, là, mes collègues et moi, puisqu'on a mis en titre hein, biotechnologie et travail reproductif, on est assez d'accord avec ce que dit Debra Satz, qui explique que si on ne veut pas prendre la fabrication d'enfants comme un travail, d'une certaine façon, c'est parce qu'on déconsidère ce type de travail par rapport au travail dit productif. On se demande bien comment la société pourrait continuer à fonctionner si on ne fabriquait pas d'enfants. Donc il est bien évident que la fabrication d'enfants est un enjeu fondamental de l'espèce humaine et du reste de toutes les espèces. Donc disons que elle parle des brassades, elle dit que c'est à cause de l'asymétrie entre les sexes qu'on ne regarde pas le travail reproductif comme un travail, et je trouve que c'est assez juste. Et il y a tout un débat sur cette question, travail productif, travail reproductif, qui a eu lieu en France notamment, qui a commencé à émerger en France dans les années 80, avec les cahiers de l'APRE, travail productif, productif, reproductif, ou plusieurs livres aussi au niveau international. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu, je dirais. Et en ce qui me concerne, je considère que c'est un enjeu central, parce que je pense que l'inégalité qui existe entre les femmes, les hommes, les homos, les hétéros, etc., a pour centre de gravité la question de la reproduction humaine. Parce que, au fond, me semble-t-il, si la société a besoin d'avoir deux catégories, le masculin et le féminin, c'est à cause de l'enjeu de la reproduction. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait deux catégories. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup de force physique, il y a des femmes qui ont beaucoup de force physique. Donc la distinction, elle est centrée là-dessus, de mon point de vue. Si je pars de l'idée que fabriquer un enfant, c'est un travail et c'est un théâtre social, je vais décliner quatre scènes sociales ou quatre rapports sociaux qui sont au cœur du travail reproductif. Alors, les quatre rapports sociaux qui, à mon avis, sont centraux, c'est le genre, c'est la hiérarchie, le pouvoir médical, la hiérarchie sociale, et c'est aussi une scène géopolitique et transnationale avec les inégalités géopolitiques. Donc, les quatre scènes sont abordées dans mon livre, et c'est surtout la quatrième, la question transnationale, qui est abordée dans cet ouvrage, enfin dans ce numéro spécial. Alors, peut-être je dirais aussi en introduction que donc, en clair, ce travail reproductif, le fait de fabriquer un enfant, et notamment dans le cas où on a des difficultés à fabriquer un enfant, ça nous paraît une scène sociale qui met en scène, un théâtre qui met en scène toutes les inégalités, la plupart des inégalités de la société. Donc c'est aussi, je dirais, un analyseur de quelles inégalités on a dans la société. Et donc au-delà des techniques de reproduction, on voit ce qui se passe, on voit les rapports sociaux. Donc c'est pour ça que je parle de 4 rapports sociaux. Alors, le premier rapport social qui est en cause, c'est la question du genre. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi le système social de genre, et qu'est-ce que c'est pour nous le système social de genre quand on étudie les techniques reproductives? C'est d'une part le fait de la différenciation sociale entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'il y a une construction de la différence homme-femme, il y a une construction de la hiérarchie homme-femme, et il y a un système hétéronormatif, c'est-à-dire une valorisation de l'hétérosexualité pour faire des enfants. Ce qui veut donc dire que sont, je dirais, dominées dans ce système les femmes, les homos, les trans, les bi, les inter, etc. Donc, voilà ce que c'est que pour moi le système de genre. Alors, dans quelle mesure cette fabrication d'enfants met en scène cette inégalité? Voilà par exemple une femme hétéro qui raconte ce qu'elle a vécu à l'hôpital quand elle était seule, enfin quand elle a fabriqué un enfant et son mari n'était pas là. En fait, si vous voulez, j'ai tout fait toute seule. Je dis toujours, j'ai fait ma fille toute seule. Il n'était jamais présent. Je veux dire, même si son travail l'empêchait d'être présent pour les piqûres, j'estime que au moins pour les transferts, il aurait dû être présent. Il n'y était pas, et donc, je prenais les décisions toute seule. C'est dur, très dur. Vous êtes à un endroit où vous devriez être à deux. Donc, voilà le cas d'une femme hétéro, qui est un cas extrêmement classique. C'est-à-dire qu'elle a recours à l'hôpital pour faire un enfant et elle est seule. C'est-à-dire que c'est elle qui assume la quasi-totalité des étapes médicales de la fabrication de l'enfant. En ce qui concerne, je vais m'attarder un tout petit peu plus en ce qui concerne les homos. Alors pourquoi ? Parce que c'est au centre de l'actualité, on va dire, le fait que les gays et les lesbiennes ont obtenu le mariage et un certain nombre d'enjeux sont sur la parentalité gay et lesbienne. Alors, je m'attarde dessus simplement pour dire que dans mes enquêtes, je constate qu'il y a deux grands scénarios, on va dire. Si je prends les normes de la procréation traditionnelle avec un couple hétéro, je peux dire que interviennent d'une part deux personnes, c'est-à-dire que en France, dans la société occidentale, on parle de la bilatéralité, donc on est deux pour faire un enfant. Dans l'imaginaire, dans les lois, il y a deux personnes. Et dans ces deux personnes, il y a du masculin et du féminin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les modèles, disons gays et lesbiens, c'est comme si on réaménageait ces deux normes, c'est-à-dire être deux, et ou masculin-féminin, on les réaménage différemment. Donc, il y a un premier réaménagement qui est centré sur le couple, on veut être deux, et il y a un deuxième réaménagement qui est centré sur on est plusieurs, mais il y a du masculin et du féminin. Ou pour le dire autrement, il y a un premier modèle qui est un modèle centré sur le couple, mettons deux femmes, où le tiers d'honneur est un tiers d'honneur pas clandestin, invisible, voilà, qui est secret, qu'on va chercher, on va chercher du sperme, mais la troisième personne n'a pas de, comment dire, c'est pas qu'elle n'a pas de réalité, mais elle n'intervient pas par la suite dans l'éducation de l'enfant. Alors que dans la deuxième configuration, on a une configuration où il y a plusieurs personnes. Je reprends le cas d'un couple de lesbiennes, on a deux femmes et on a une ou deux personnes, en général, enfin, une ou deux personnes, donc mettons le père géniteur, qui éventuellement intervient dans l'éducation de l'enfant ou pas. Donc, c'est deux configurations bien différentes et qui correspondent à des styles de personnes différentes et aussi, je pense, à des générations différentes. Alors, voilà par exemple un premier cas qui correspond plutôt à la génération actuelle, enfin, disons, qui devient, c'est le cas qui devient majoritaire, c'est le cas qui est autour du couple. Et donc, qui est notamment porté par la génération d'aujourd'hui qui fait des enfants. Je me disais qu'un enfant, c'était le fruit d'un amour entre deux personnes, pas trois, pas quatre. Enfin, de toute façon, pour Aurore, c'était ça ou rien. Pour Aurore, c'était donneur anonyme ou pas. Parce que si on faisait famille, elle voulait encore plus sa place dans cette famille. Et puis comme on est toutes les deux des femmes qui assument complètement leur homosexualité, on est un couple qui ne peut pas avoir un enfant et on se fait aider par la médecine, mais pas par un donneur. On est une famille homoparentale, voilà, clairement. Ce qui est en question, c'est la place du parent social. Un père symbolique, c'est bancal, quoi, on a deux pieds, quoi, trop compliqué, trois bancales. Et puis encore une fois, j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas assumer son homosexualité que de faire appel à un homme pour faire un enfant et de lui demander d'avoir un rôle de père, quoi, de faire famille. Les couples hétéros qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne font pas ça avec un donneur connu, ils demandent à la médecine de les aider, etc. etc. Et donc, cette personne m'explique très clairement que, bon, elle a hésité un certain temps et elle est vraiment restée sur cette idée, d'autant plus qu'elle a vu autour d'elle des couples de gays et de lesbiennes qui ont fait des associations pour faire des enfants et que à la sortie il y a eu des procès parce que les rôles n'étaient pas nécessairement tenus comme prévu au départ et c'est toujours, c'est en général les hommes qui ont gagné et donc elle ne voulait pas ça. Donc ça c'est un premier style. Un deuxième style, deuxième modèle, c'est un modèle de configuration à plusieurs. Et ça, c'est notamment, ce modèle devient minoritaire au niveau des gays et des lesbiennes, et c'est notamment le modèle porté par la génération précédente, on va dire. Enfin, qui n'est pas morte, hein, mais la génération qui est encore là. Hein. Ce n'est pas comme ça que j'envisageais d'avoir une vie différente, une sexualité différente. C'est le reproche qu'on nous fait, de vouloir mimer une certaine forme d'hétérosexualité. On fait la même chose, sauf qu'on n'est pas hétéro. Je suis partisan d'une approche plus décalée, plus bizarre, plus étrange, à part. Bref, par exemple, donc ça c'est un homme qui parle, hein, une coparentalité avec un couple lesbien. Ça correspond à mon mode de vie. Si je vois mon enfant une semaine sur deux, ce n'est pas un enfant à tout prix, ce n'est pas le seul projet de mon existence. De le partager, ça ne me pose pas de problème. Cette idée de coparentalité me plaît bien, elle permet de sortir d'une conformité de l'attendu social, ça donne de l'air à l'enfant, aux parents. Donc voilà le point de vue d'un homme gay. Alors je dois dire que les conséquences pratiques de l'évolution des lesbiennes sur cette question, c'est que, disons, je ne sais pas, il y a 10-15 ans, les hommes gays pouvaient trouver des partenaires lesbiennes qui acceptaient cette coparentalité et maintenant c'est plus difficile, donc les hommes gays sont plus facilement dans une situation d'avoir recours à des mères porteuses parce que ce modèle se diminue, si on peut dire, hein, diminue de fréquence. Donc voilà la première scène sociale qui concerne le genre, les inégalités, les évolutions, les reconversions.
Dehors, papa, dehors, maman est dehors.
Voilà, toujours écoute de Radio Canu, émission Angle Mort. On vient de s'écouter Witch Hunt et on poursuit l'écoute, donc la diffusion de cette conférence de Laurent Stein intitulée La chaîne mondiale du travail reproductif.
Alors, cette scène, ce rapport social se combine avec le pouvoir médical. Alors, dans le. Dans ce numéro spécial, Carice Thompson, qui est une Américaine, écrit un article tout à fait intéressant que j'ai du mal à vous résumer, où elle montre tous les enjeux, un certain nombre d'enjeux commerciaux par rapport à l'industrie de la reproduction. Elle appelle ça « vote, ovocytes et cosmétiques ». Et la question de la recherche des cellules souches, etc. Bon, j'ai un petit peu de mal à vous le résumer parce que c'est un article tout à fait brillant et intéressant. Elle a écrit, c'est d'elle de reste que je me suis inspirée sur cette idée de recomposition des attendus de la parentalité occidentale, le 2 et le masculin et le féminin. Et donc, bon, elle a déjà écrit un certain nombre de choses en anglais, et là, elle a accepté de nous écrire cet article en français. Donc, on voit bien les enjeux du commerce, les enjeux sur l'industrie génétique, la recherche en génétique des techniques reproductives. Bon, j'explique par exemple dans mon livre que sur ces enjeux, quelqu'un comme Edwards, qui est le premier qui a fait une fécondation in vitro, qui est un biologiste, avec Step 2 en Angleterre, donc 1978, hein, le premier enfant né par fécondation in vitro. Il l'a fait parce que ce qui l'intéressait, c'était la recherche en génétique. Il le dit clairement du reste, hein. Ce qui l'intéressait, c'était ça, c'était la recherche en génétique, c'était pas du tout la stérilité des couples. Et donc, il avait compris assez vite que pour pouvoir faire de la recherche, le plus simple, c'était de faire des fécondations in vitro, comme ça, il pouvait récupérer des embryons, il pouvait récupérer un certain nombre de choses et travailler sur la question. En France, Testard, le biologiste, écrit un truc amusant, là, que je cite aussi, je ne sais plus où. Il explique que c'est... que quand on fait de la recherche, il avait fait de la recherche pendant longtemps sur l'insémination artificielle, les animaux, etc. Et il dit que c'est beaucoup plus simple sur les humains, parce que les humains parlent, et ça coûte beaucoup moins cher, parce que c'est pris en charge, c'est payé par l'hôpital. Quand vous allez prendre, par exemple, les déchets d'une opération sur une femme, vous récupérez le placenta, le truc, etc. Vous pouvez faire une recherche là-dessus, ça ne coûte rien, parce que le séjour de la femme à l'hôpital est payé par la sécurité sociale. Alors que si vous faites la même chose sur un chimpanzé, il faut nourrir le chimpanzé, le garder au laboratoire, etc., etc. Donc on voit très bien tous les enjeux qu'il y a pour la recherche d'utiliser les opérations sur les femmes pour avancer au niveau de la recherche, qui coûte moins cher et qui est plus commode que la recherche sur les animaux. Donc, le pouvoir médical est au centre de ces questions. Et on a souvent dit qu'on était dans le XXe siècle, c'était le siècle de la médicalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus à une époque où l'institution c'est l'Église, l'institution dominante, mais l'institution dominante c'est l'hôpital. Et maintenant, on est dans une période qui est plus que la médicalisation, qui est la biomédicalisation, et donc avec ces nouvelles techniques, etc. Alors, pour vous dire deux mots de comment le pouvoir médical se combine avec les questions de genre, eh bien, je vais vous donner un exemple. Dans les années 70, en cas d'infertilité masculine, on a commencé à avoir des banques de sperme et on a on a proposé aux couples pour lesquels l'homme était infertile de se tourner vers une banque de sperme, donc vers un tiers donneur. Et puis à la fin du XXe siècle, plutôt que de faire une insémination artificielle donneur, donc de recourir à cette banque de sperme, on a proposé ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire l'homme est infertile et on fait une opération sur la femme. Alors, je vous laisse, prendre la dimension de cette situation. La difficulté de faire un enfant dans ce couple est due à l'homme. L'homme n'est pas opéré, c'est la femme qui est opérée. Donc vous voyez que, vous imaginez le truc inverse. La femme est infertile et on fait une opération sur l'homme. C'est même pas imaginable au niveau social. C'est-à-dire qu'un homme accepte les conséquences d'une anesthésie générale, d'une chirurgie, avec toutes les conséquences que ça a, alors que c'est pas lui qui est infertile, c'est sa femme, sa compagne. Donc ici, voilà par exemple Royer en 1992, il explique déjà ça. Il explique que quand un homme, qu'on n'est pas bien sûr que l'homme soit fertile ou pas, eh bien, la façon la plus simple de savoir s'il est fertile ou infertile, c'est de faire une opération sur la femme. C'est-à-dire, c'est de faire une fécondation in vitro et de voir si ça marche. Voilà ce qu'il écrit dans une revue scientifique. L'utilisation de la fécondation in vitro en cas d'altération non spécifique du sperme résulte essentiellement de la limite diagnostique que possèdent les autres tests biologiques de fécondance et de ses résultats. Dans l'état actuel de nos connaissances, elle constitue le moyen le plus direct d'apprécier in vitro le pouvoir fécondant d'un sperme. Donc, au-delà du discours scientifique, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire, on veut savoir si l'homme est fertile ou pas. Comme on ne sait pas faire, le plus simple, c'est de faire une fécondation in vitro, donc de faire une opération sur la femme. Et comme ça, on va tester si ça marche ou pas. Donc je dirais qu'on voit vraiment comment, enfin de mon point de vue, hein, comment le pouvoir médical se combine avec le système de genre, parce que je ne vois pas comment un homme accepterait de se faire opérer pour savoir si sa femme est fertile ou pas. Alors que l'inverse est acceptable, entre guillemets. Alors autre chose qui va dans le même sens, maintenant donc on fait beaucoup moins d'insémination artificielle donneur, et on fait ce qu'on appelle des ICSI ou micro-injections. ICSI, intra, cyplo, je sais pas quoi, cytoplasmique, spermatique, injection. ICSI, et donc en français, on va dire micro-injection. Et donc, on fait ces micro-injections parce que donc, l'homme est très infertile, mais on arrive toujours à aller récupérer un ou deux spermatozoïdes dans son sperme. Et donc on prend les spermatozoïdes, on les injecte de force dans les ovocytes et on fait donc une fécondation in vitro chez la femme. Ce qui fait que même dans le cas où la femme est féconde et l'homme est très infertile, aujourd'hui, au lieu d'avoir recours à un donneur qui, vous voyez, au niveau imaginaire, fait exploser le couple traditionnel, au lieu d'avoir recours à un donneur, on a recours aux spermatozoïdes de l'homme infertile, moyennant une opération sur la femme. Donc voilà le cas par exemple d'une jeune femme que j'ai interrogée et qui est très fertile. Elle a eu beaucoup d'interruptions de grossesse avec différents partenaires de 20 à 25, 28 ans. Et puis là, elle a enfin trouvé l'homme avec qui elle veut vraiment faire des enfants. Ils viennent de se marier ou ils vont se marier. Et elle se demande, au bout de quelques mois, elle se rend compte que ça ne marche pas. Et elle se dit, vraisemblablement, l'homme est infertile. Donc, ils vont voir le médecin, et effectivement, il s'avère que l'homme est très infertile. Et donc, voilà ce qu'elle explique. En fait, on a essayé pendant 9 mois, et je n'ai toujours pas enceinte. Notre généraliste nous a dit, oh là là, pas de précipitation pour avoir un enfant, surtout à vos âges. J'avais 28 ans et mon copain 30. Il faut un an, voire 2 ans. Mais moi, j'avais un autre parcours avant. J'étais déjà tombée 4 fois enceinte, 2 IVG et 2 fausses couches précoces, pas avec mon mari actuel, mais avec d'autres personnes. Donc, j'étais considérée comme hyper fertile et j'étais plutôt inquiète que ça ne vienne pas. La spécialiste a dit « On va attaquer la batterie d'examen. » Je crois que dans l'histoire, les garçons, ils ont très peu d'examens. Quand elle a eu les analyses de tout le monde, elle a dit « Ok, on a un seul problème, c'est celui des spermatozoïdes. Donc, on peut faire une fécondation in vitro. » Donc, vous voyez, c'est clair. On a une femme très fertile, on a un homme très peu fertile, donc on ne va pas chercher un autre sperme, ce qui ferait que la femme n'aurait pas d'opération. On va faire une opération sur la femme. Donc la suite de l'entretien avec cette jeune femme, ça a été bon, alors comment ça s'est passé, etc. Elle avait fait déjà 4 inséminations de spermatozoïdes de son partenaire. Et à un mois d'intervalle, et moi je m'étais dit en moi-même quand elle me disait ça, oulala, ça a dû mal tourner parce que 4 opérations, ça veut dire une hyperstimulation, donc ça peut avoir des conséquences importantes. Ça n'a pas manqué, kyste aux 2 ovaires. Ok, donc je lui dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui, alors ils nous ont dit qu'il fallait qu'on arrête plusieurs mois. C'est vraiment embêtant parce que mon mari, il est vraiment gentil, il accepte tout ça. Alors, sachant que... Ah ouais, non, c'est... Voilà. Elle a les kystes, elle a arrêté son travail, ils n'ont plus de relations sexuelles. Lui, il a continué son travail, il donne son sperme de temps en temps, bon, ok. On ne sait pas s'il a d'autres relations sexuelles. Donc, parce que je dis ça parce que moi j'ai vu des parcours après, et après c'est classique, c'est extrêmement classique que l'homme a continué sa carrière professionnelle, a une bonne carrière professionnelle, il a eu éventuellement plusieurs partenaires, il a éventuellement quitté la femme qui a fait les enfants pendant un certain nombre d'années, enfin bon, en tout cas, on voit bien comment l'inégalité se construit dans le parcours et comment... comment la médecine est complice de ce type de fonctionnement. Dernière petite chose que je voulais dire sur la médicalisation, c'est dire comment la médicalisation a changé la donne. Est-ce que vous avez idée de la première insémination artificielle? Bon, je fais toujours un scoop avec ça parce que, en général, vous dites qu'elle... Pardon. Alors ça, c'est la fécondation in vitro, ouais. Mais l'insémination artificielle.
C'était
avant le 17e. Oui, le 18e. Mais disons que c'est rarissime qu'on réponde ça. Parce que normalement, on répond... Parce que normalement, on répond la fin du 20e, quoi, en même temps que fécondation in vitro... 1960-70. Or, en fait, la première insémination artificielle humaine connue qui a marché a eu lieu en 1776 sur un drapier, avec un drapier anglais qui a utilisé une seringue pour sa compagne sur les conseils d'un médecin. Mais à l'époque, la médecine ne pouvait pas mettre ça en avant, donc le médecin en question. Cette expérience qui a réussi n'a été publiée qu'à la mort de la personne en question par son beau-frère 20 ans après. Et pendant un siècle, c'est resté clandestin tant que la médecine n'avait pas le. Ne pouvait pas mettre cette question-là en avant. Et donc, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un secteur important. De l'hôpital. Donc, voici sur cette deuxième scène sociale. La troisième, sur laquelle je vais aller peut-être relativement vite, c'est que, comme toujours, la hiérarchie sociale joue. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes possibilités en haut et en bas de la hiérarchie sociale, et on n'est pas cobaye de la même façon en haut et en bas de la hiérarchie sociale. Donc, quand la fécondation in vitro a commencé, les premières cobayes, et ça c'est assez clair, en tout cas avec les chiffres que j'ai eus, oui, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, l'enquête que j'ai faite là, pour ma part, elle provient de... J'ai dépouillé 1000 dossiers dans un hôpital. J'ai fait ou des collègues à moi ont fait. Donc j'ai utilisé une centaine d'entretiens ces dernières années, là depuis 2008 à peu près. Et j'ai utilisé les résultats d'un questionnaire fait par l'INED. J'ai regardé la question ouverte de 2500 questionnaires. Donc c'est à partir de ça. Alors au niveau de... Au niveau des premières, des cobayes, j'ai regardé les personnes qui avaient commencé à consulter à l'hôpital avant 1985. Donc, vous voyez, les fécondations in vitro, la première en Angleterre qui marche, 1978. En France, Amandine naît le 10 mai 1981. Non, elle est conçue, je ne sais plus. Bon, enfin, peu importe. Oui, non, elle est conçue le 10 mai 1981 et elle naît en 82. Donc vous voyez, les personnes qui ont commencé, il faut un ou deux ans avant que ça vienne dans les hôpitaux de France, donc les personnes qui ont commencé à consulter en 1985, c'est vraiment le tout début des fécondations in vitro, donc de 1985, et moi je commence à regarder les dossiers en 1991. Donc je regarde les personnes que j'ai appelées les pionnières longue durée, c'est-à-dire les femmes qui ont commencé, dont le dossier a été ouvert avant 1985 et qui, 6 ans après, sont encore là. Pour certaines, sont encore là 10 ans après, 15 ans après, etc. Or, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que, pour l'essentiel, les personnes qui sont là sont des personnes du bas de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire, c'est des ouvrières et des employés et quasiment personne de profession intermédiaire et de cadre. Donc ces pionnières longue durée, il y a seulement 10% de cadres ou professions intermédiaires, ce qui ne correspond pas du tout disons normalement il y a un tiers, 35% 33% pardon, il y a un tiers de la population féminine active qui est cadre ou profession intermédiaire. Alors là j'en ai que 10%. Donc en fait, j'ai une surreprésentation des personnes qui sont en bas de la hiérarchie sociale. J'ai une surreprésentation des personnes qui travaillent dans le milieu médical. Pour l'essentiel, elles viennent du milieu médical, mais elles sont pas du tout médecins, pas infirmières. Elles sont cuisinières d'hôpital, aides-soignantes, secrétaires, voilà. Mais elles sont très peu infirmières. J'ai 0 médecin et j'ai 2 infirmières. Et toutes les autres sont en dessous. Donc on voit bien une première chose, c'est que la hiérarchie sociale joue, c'est-à-dire que l'institution produit ses cobayes, c'est-à-dire l'institution médicale produit ses cobayes, d'une part, et d'autre part, les cobayes, elles se recrutent au bas de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que les médecins, elles savent très bien qu'au début, c'est pas au point, et donc elles y vont pas. Alors que les autres, on leur dit que c'est bien, elles y vont. Donc c'est pas du tout le même type de scénario. Et puis évidemment l'argent joue, même si en France les fécondations in vitro sont remboursées, les femmes les font pas au même moment. Je parle là déjà des femmes hétéros et des autres aussi. Les femmes hétéros, notamment, les femmes cadres vont les faire après 35 ans et les femmes ouvrières elles vont les faire à 25 ans. Donc ça n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire qu'une femme de 35 ans qui fait une fécondation in vitro, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, je dirais, elle a déjà commencé une carrière. Les femmes de 25 ans qui commencent, c'est comme celle dont je parlais tout à l'heure, là, à 28 ans, elles commencent à arrêter leur travail. Bon, donc on va dire que déjà, il y a une difficulté d'insertion professionnelle à 25 ans, mais si en plus on passe des années à faire des traitements et des années à l'hôpital, c'est encore pire à 35 ans pour trouver du boulot et un boulot qui plaise. Donc, il y a une inégalité sociale à ce niveau-là. Et en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas droit en France aux techniques reproductives, ben évidemment, le fait d'avoir de l'argent permet d'aller ailleurs et d'avoir des possibilités. Voilà par exemple ce que dit un homme gay. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et être hypocrite. Il y a une histoire d'argent derrière tout cela. Bon, après, il faut trouver, il faut faire attention que la personne ait une bonne moralité, qu'elle ne parte pas avec l'argent. Mais au final, il y a un rapport d'argent entre les deux parce que c'est interdit. Il parle de la France. C'est un marché noir, donc ça se monnaie. En gros, le marché de la GPA, la grossesse pour autrui en France, la rémunération de la mère porteuse, c'est entre 15 et 20 000 euros. Les coûts, après, ça dépend. Si ça marche du premier coup, c'est bien. Donc, on voit bien comment l'argent permet ou ne permet pas pour un gay, notamment, ou pour un trans, d'accéder à faire un enfant. Évidemment, l'argent est décisif. Alors, j'en arrive à la dernière scène sociale, qui est donc la scène transnationale, la scène géopolitique. Bon, je n'ai peut-être pas parlé de la question de la migration. Je vais parler plutôt de ce que j'ai appelé la chaîne mondiale du travail reproductif et qu'on a repris comme concept clé ici et qui donc est un chapitre de mon bouquin. Donc, la chaîne mondiale du travail reproductif, c'est l'idée qu'aujourd'hui, ce travail reproductif peut faire appel. On peut être un homme ou une femme français et aller chercher des ovocytes en Roumanie, une mère porteuse en Inde, etc., etc. Donc, on peut combiner, imbriquer différents acteurs de différents pays pour obtenir un enfant. Alors, évidemment, la question, c'est dans quelle mesure ce recours est égalitaire, inégalitaire. Quid des inégalités, quid des conditions de travail des femmes qui font des enfants, etc. Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes, et on va sûrement en discuter. Une première piste, d'abord, c'est qu'au niveau international, ce que j'appelle le corps fait intervenir finalement plusieurs institutions. L'institution médicale, l'institution, les règles de la société, donc l'État, et l'institution, la religion, les institutions de l'Église. Je vous donne un exemple. Au niveau transnational, et donc c'est l'un des exemples qui est rapporté ici pour la Palestine, Palestine et Israël sont dans une démarche de fécondité qu'on peut appeler une fécondité de combat. C'est-à-dire, il faut faire des mômes, parce que il faut avoir de la chair à canon. Donc, comment les choses se passent d'un côté et de l'autre? En Palestine, et c'est l'article qui est ici, en Palestine, on fait de la sélection sur les embryons. C'est-à-dire qu'il faut, plutôt des garçons ou des filles. Donc, on a un certain nombre d'affiches, de propagande pour sélectionner les embryons et pour sélectionner les embryons masculins. Et donc c'est l'article de Sarah Mémy et Annabelle, choisir le sexe de son enfant, nouvelle technique de procréation assistée en Palestine. En Israël, je rapporte ici le travail d'une collègue qui a travaillé en Israël. C'est assez intéressant de voir comment les trois institutions se combinent. Là, c'est pareil, il faut faire des enfants. Or, contrairement à la France, en Israël, même les femmes lesbiennes peuvent faire des enfants à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que finalement, tout le monde est d'accord dans cette histoire. Bon, l'institution médicale donne son accord, l'État veut qu'il y ait des enfants, donc ok. Et comment la religion accepte de faire des enfants de cette façon, et bien finalement en faisant des arrangements avec la halakha, qui est la loi hébraïque. Alors quels arrangements? Vous savez que chez les musulmans, l'enfant, c'est le père qui compte, hein, il est musulman si le père est musulman, et chez les juifs, l'enfant est juif si la mère est juive. Donc ce qui compte, c'est la mère, que la mère soit juive. Donc on prend une mère juive. Et premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de sang. Donc, il y a des machigotes, des religieuses qui sont à l'hôpital pour faire attention qu'il n'y ait pas de sang. C'est-à-dire que si on pique, qu'il n'y ait pas de sang qui sorte. Et donc, s'il y a du sang, on appelle un rabbin pour savoir si c'est OK, si c'est pas OK, etc. Donc vous imaginez, je trouve ça toujours rigolo, vous imaginez dans un service hospitalier en France, une carmélite qui vérifie si on a pris la bonne éprouvette, si tout s'est bien passé, quoi. Voilà comment ça se passe. Deuxième problème, il y a suspicion, du reste dans la religion musulmane comme juive, il y a suspicion d'adultère quand on fait appel à du sperme de donneur. Mais pour qu'il y ait adultère pour un juif, il faut que la femme fasse l'amour avec un homme juif marié. Donc qu'à cela ne tienne, il suffit de prendre un homme non juif. Et donc, si on va chercher du sperme dans les... Je ne sais plus dans quelle île là qui est par là, à Rhodes peut-être, je ne sais pas où. Et donc on va chercher du sperme, je pense, essentiellement chrétien. Et donc dans ce cas-là, pas de problème, il n'y a pas adultère, donc tout va bien. Donc vous voyez, les arrangements sont toujours des arrangements étonnants. En France, on ne fait pas mieux. Hein. C'est-à-dire que quand on a voulu faire la loi, dans un premier temps, la loi, c'était un projet parental, la loi votée en 1992. Et le... Comment ça s'appelle ? Changement de majorité, en 93, à qui on confie le projet de la nouvelle loi ? À Jean-François Mattei, qui cumule les trois aspects, les trois institutions. Il est député, donc il est représentant de l'État, il est médecin, il est représentant du courant dominant de l'institution médicale, et il est catholique, catholique pas seulement pratiquant, militant, et donc, quand il va faire la loi, il va faire venir, je dirais, les courants dominants de ces trois institutions, d'où la loi de 94 qui exclut les homos, les trans, etc., et qui restreint la loi aux couples hétéros, mariés ou ayant 2 ans de vie commune. Alors, pour donc, une autre piste, voilà par exemple un témoignage. Parce que toute la question, évidemment, enfin l'une des questions, c'est si on fait appel dans cette chaîne mondiale du travail reproductif, si on fait appel à des mères porteuses, par exemple, dans quelle mesure les femmes sont exploitées ou pas. Alors, voilà le témoignage d'un homme. Alors, sa première expérience, la voilà, corruption à tous les étages. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « D'accord, merci. Enfin, j'ai fini ce qu'on avait à se dire et je suis partie. » Effectivement, ils avaient beaucoup moins d'état d'âme et de questions que moi vis-à-vis de la porteuse. La porteuse et la donneuse, c'était un distributeur et un four. Voilà. Un autre homme du même style. « J'arrive à l'hôtel le premier jour, je demande à un mec qui traînait par là. Tu ne connais pas quelqu'un ? Je cherche une maman pour faire un bébé. Pas de problème, je te trouve ça. J'ai dit ok, je suis restée une semaine et au bout d'une semaine, j'ai compris que c'était mort. D'un point de vue sanitaire, psychologique, légal, je suis revenue, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant une semaine et voilà, l'épisode est terminé. Donc, c'est des conditions inacceptables par rapport aux femmes. Mais le même homme, là, le premier dont je vous ai parlé, il dit... Si les femmes disent « j'ai bien vécu ma grossesse », je ne vois pas pourquoi on mettrait en doute leurs paroles. Donc, elle disait que c'était une situation qu'elle avait adorée, qu'elle se sentait bien. Elle donnait des détails. Ma peau était mieux, tout était mieux dans ma tête. Ça lui déclenchait des trucs qu'elle adorait. Donc, elle se dit, j'adore être enceinte. Avoir un enfant, avoir un quatrième enfant, ce n'est absolument pas raisonnable parce que ce n'est pas un engagement pour 1 an, mais pour 20 ans minimum. Et d'un seul coup, elle s'est remémorée que le destin avait fait qu'elle avait failli ne pas en avoir. Et elle s'est dit... Comment pourrais-je éventuellement être enceinte et en faire profiter quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant ? Et voilà donc une mère porteuse pour un couple gay. Alors je finis avec le témoignage de notre collègue indienne Sharmila Rudrappa. Oui, j'ai pas dit un mot de l'article de Irène Herzog qui est sur les conséquences... tout à l'heure j'ai parlé de la hiérarchie sociale, les conséquences pour le travail des femmes sur les femmes qui font des enfants comme ça. Et donc il y a un article là-dessus aussi. Enfin bon, voilà, on a écrit des choses toutes les deux là-dessus. Donc, Sharmila, donc, qui est indienne, et donc je vous donne écho de son travail, dont j'ai fait aussi écho, et d'autres, puisque donc l'an dernier avec Virginie, on a organisé un séminaire au moment du Congrès mondial des femmes en Inde sur la question des mères porteuses. Et donc, on a été assez, toutes les deux, enfin, je dirais pas étonnées, mais le témoignage des collègues indiennes qui travaillent sur les mères porteuses correspond à un contexte très différent du contexte français. C'est-à-dire que les femmes interrogées, mères porteuses, répondent qu'elles préfèrent travailler dans l'industrie de la reproduction que travailler dans l'industrie textile. Parce que, en fait, dans l'industrie de la reproduction, elles sont, on s'occupe d'elles, elles sont protégées, elles gagnent plus d'argent, donc elles sont considérées dans leur famille. Et puis pendant quelques mois, elles sont tranquilles, elles sont entre elles, et elles ne sont pas violées. Alors que dans l'industrie textile, elles gagnent pas grand-chose, et elles sont violées constamment. Donc, en réalité, elles préfèrent très largement travailler dans l'industrie de la reproduction que travailler dans l'industrie textile, pour des raisons qui se comprennent tout à fait bien. Donc je trouve que ce témoignage est très intéressant, et d'autres collègues qui étaient là dans cet atelier nous ont rapporté des choses un peu du même genre. Une autre a dit quelque chose aussi qui m'a totalement étonnée, parce que j'aurais jamais pensé à ça. Elle dit que quand elle a interrogé les femmes donc dans une clinique, elle disait que elle préférait être là et, ouf, elle n'avait pas apporté le sari. Et donc, et elles étaient en Punjabi, donc vous voyez, Punjabi, c'est un espèce de pantalon avec une tunique par-dessus, où effectivement on est libre de ces mouvements. Et moi, je n'avais pas mesuré à quel point le sari était un symbole désagréable, parce que je trouve que c'est beau. Et en fait, c'est un symbole désagréable. Ah oui, le sari, c'est quand elles sont habillées, avec les... Enfin, elles sont pas voilées, hein, mais elles sont... Elles s'enroulent dans des voiles.
Voilà,
dans des voiles. Et même pas du tout la tête. Vous voyez, même on voit leur sein, bon. Mais, enfin, on voit leur ventre, voilà. Mais, la question, c'est que ce sari, d'une part, il est difficile à mettre, ça prend du temps, d'autre part, il entrave quand même un certain nombre de mouvements, et enfin, c'est le symbole du mariage. Et donc, elles préfèrent être tranquilles avec leur Punjabi que être harnachées pour le mariage. Donc, j'ai trouvé ces témoignages de femmes indiennes qui font des enquêtes sur les femmes, les mères porteuses, extrêmement intéressants, parce qu'il met en évidence le fait qu'il est difficile d'apprécier les rapports sociaux indépendamment du contexte. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui est relatif à un contexte donné.
L'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le fond fuyant le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image.
Bon allez, il y aura eu quand même pas mal de petits erreurs techniques de ma part ce soir. C'était donc émission Angle Mort avec rediffusion d'une conférence qui avait eu lieu à La Griffe, librairie La Griffe dans le 7e. Une intervention de Laurent Stein, la chaîne mondiale du travail reproductif, que vous pourrez réécouter si vous avez lâché un moment, donc comme toutes nos anciennes émissions, sur le blog Angle Mort, donc hébergé par le site internet de Radio Canu. Donc vous pouvez trouver toutes nos anciennes émissions. On se quitte du coup là, on laisse la place aux copains et copines de la causerie. On se quitte avec un dernier titre pour faire la transition, à savoir Lynn Collins et Mama Feel Good.
Le fond fuyant le mirage dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait.
And I can make my man forget.
say something. Guitar, let me hear you spank it.